Aujourd'hui, il n'est pas tellement à la mode d'associer Dieu avec la notion de justice. Aujourd'hui, ce que l'on prêche, ce n'est pas nécessairement un Dieu juste, c'est un Dieu d'amour, de pardon, de pitié, de tendresse et de miséricorde. Il n'en a pas toujours été ainsi. Au Moyen Âge en particulier, il y avait une sorte d'obsession de la justice, et du coup, Dieu était considéré certainement comme beaucoup plus juste que aimant. Et c'est pourquoi on avait à ce moment-là tout un arsenal de jugements et de rétributions, et l'on considérait que dans les attributs de Dieu, il était nécessaire qu'il y ait celui de la justice, c'est-à-dire qu'il récompense les justes et qu'il punisse les mauvais. Alors bien sûr, je préfère la prédication du XXIe siècle que celle du XIIIe siècle, et je suis tout à fait prêt à prêcher un Dieu d'amour et de tendresse. Mais néanmoins, abandonner comme le font en général tous les prédicateurs aux pertes et profits la justice, à mon avis, pose quand même quelques problèmes. Parce que il y a quand même des situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver qui sont des situations profondément injustes. Et cela de deux manières. Soit par le cours des choses, en effet, certains n'ont pas de chance. Et par exemple, quand certains ont des malheurs terribles qui leur tombent dessus, ils ont tendance à dire « Mais qu'est-ce que j'ai pu faire au ciel ou au bon Dieu pour que cela m'arrive ?» Et il est vrai qu'il y a de très grandes injustices dans ce monde. Il y a ceux qui vivent nantis et bien confortables et en bonne santé quelque part, et puis il y a ceux qui sont handicapés physiquement, ceux qui souffrent dans leur chair, ou ceux qui subissent des catastrophes naturelles ou des malheurs quelconques. Et n'y a-t-il pas là une injustice absolument flagrante ? Quand on est du bon côté de la barrière, ce n'est pas très gênant. On se dit, bon, ben, après tout, les gens n'avaient qu'à pas vivre en Haïti, c'est pas mon problème. Mais quand on est frappé par l'injustice, alors on ressent nécessairement une sorte de sentiment épouvantable qui n'aboutit sur rien. Et quand la justice humaine elle-même devient impuissante à rétablir l'ordre, eh bien cela devient insupportable. Et puis il y a aussi les injustices, petites ou grandes, que nous subissons de la part de nos frères, de nos prochains, des autres, et quand parfois il y a effectivement certains dans ce monde qui nous font du mal et qui nous blessent, qui nous spolient d'une façon absolument injuste, et puis que la justice humaine n'en a rien à faire, et que par conséquent on est en butte à quelque chose, un sentiment, une fois de plus, qui ne peut aboutir sur rien et qui est bien difficile à gérer. Alors peut-on penser que Dieu soit totalement insensible à cela? Et peut-on penser vraiment que Dieu se fiche tout à fait de la justice et se contente d'aimer et de pardonner? Je crois que c'est un peu problématique. Il est vrai que l'amour et le pardon sont des choses profondément injustes, et c'est là qu'est le problème dans la théologie. Le pardon en lui-même et la grâce est injuste, puisque le pardon, c'est de dire que le coupable ne payera pas. Et donc le coupable, on fait comme si de rien n'était. Alors ça, c'est très bien quand c'est moi qui suis coupable, mais quand c'est l'autre qui est coupable de m'avoir offensé, est-ce que je peux me contenter de me dire que Dieu, finalement, pardonne à celui qui m'a fait du mal et laisse les choses en l'état? C'est-à-dire que je ne suis pas, je dirais, remis dans mon état primitif et qu'il n'y a aucune réparation en ce qui me concerne. Je crois que les Juifs, de ce côté-là, ont une conception du pardon supérieure à celle des chrétiens, parce que les chrétiens ont un peu tendance à se contenter, même pour eux, du pardon de Dieu. Et on se dit, j'ai fait du mal, et on va à l'église et on vous dit que Dieu vous pardonne, et tout cela est pour le bien. Alors que dans le judaïsme, il y a cette idée que Dieu ne peut me pardonner que si j'ai moi-même fait réparation à celui auquel j'ai fait du tort. Alors, je ne crois pas que le pardon de Dieu soit conditionné à cette réparation, mais il y a quand même le sentiment qu'il y a le pardon de Dieu, mais il y a aussi la conséquence de nos actes. Et quand on a fait du mal à quelqu'un, eh bien, il ne suffit pas de se dire que Dieu nous a pardonné et de laisser les choses dans l'état. Il y a là quelque chose qu'il faut prendre en compte. Alors, n'y a-t-il vraiment aucune justice en Dieu? Je ne crois pas. Il faut trouver de quelle manière Dieu parvient à rétablir une certaine justice dans ce monde. La justice, c'est de dédommager celui qui est lésé. La justice, c'est de punir celui qui est coupable. Et la justice, c'est de rétablir dans son droit celui qui en a été privé. On trouve dans l'Évangile, je crois, plusieurs passages qui montrent que Dieu est sensible à cette dimension des choses. Par exemple, j'aurais pu vous lire le très célèbre passage des Béatitudes, quand le Christ dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Donc il y a une certaine justice, il y en a qui aujourd'hui pleurent et d'autres qui rigolent, mais ne vous en faites pas, Dieu va rétablir les choses en quelque sorte en consolant ceux qui pleurent. Et Luc va même plus loin en disant « Malheur à vous qui riez maintenant, parce que vous pleurerez ». Et ça ne nous plaît pas cette histoire. Mais néanmoins, on voit qu'il y a en tout cas dans Luc, dans ces béatitudes de Luc, un souci absolu de la justice et de la rétribution. Le problème, c'est de savoir, comment Dieu va rétablir la situation. Est-ce que c'est dans ce monde ou est-ce que c'est dans l'autre monde? On a souvent lu les béatitudes comme étant une rétribution dans l'autre monde. Donc aujourd'hui, vous pleurez. Mais ce n'est pas grave, dans le royaume de Dieu, dans le paradis éternel, eh bien vous aurez une compensation plus tard, et donc Dieu rétablira l'ordre après notre mort. Je ne suis pas très convaincu de cette lecture-là. D'abord parce que je crois que dans le judaïsme, il n'y a pas tellement cette idée finalement d'une rétribution après la mort, et en tout cas dans tout l'Ancien Testament et dans les psaumes en particulier, les psaumes ne croyaient pas à la vie éternelle, et donc toutes les promesses de Dieu concernent la vie d'ici-bas en quelque sorte. Et tous ces nombreux passages où l'on dit que Dieu va remettre le juste dans son droit ne peuvent être que dans la vie d'ici-bas. Et d'autre part, vous avez entendu comme moi ce que Jésus dit après l'épisode du jeune homme riche. Et il dit, il n'y en a pas qui est perdu à cause de l'Évangile, à cause de moi, terre, femme, enfant, maison, etc., qui n'en recevra 10 fois plus, mais dit-il, dans ce monde. Il ne dit pas ensuite d'une autre manière, dans ce monde. Donc je crois qu'il y a effectivement une sorte de rétribution dans ce monde-là qui est donnée de la part de Dieu. Le seul moyen de le comprendre, étant donné que je ne crois pas que Dieu se mêle d'enrichir ceux qui ont été volés matériellement, ni de rendre la bonne santé à ceux qui sont malades physiquement, ni de rendre la vie à ceux qui seraient victimes d'un accident ou d'une catastrophe naturelle sur cette terre. C'est que ce que Dieu donne est d'une autre nature. C'est-à-dire que Dieu va nous donner une rétribution en quelque sorte, mais dans une autre nature, dans une autre monnaie. C'est-à-dire que celui qui s'appauvrit matériellement s'enrichit spirituellement et il acquiert une sorte de richesse qui, elle, demeurera pour l'éternité. Ça, c'est effectivement quelque chose qui me semble assez important. En tout cas, l'idée que Dieu rétribuera dans l'autre monde, puisqu'il faut bien envisager cette possibilité, personnellement ne m'enthousiasme pas beaucoup. Je ne m'enthousiasme pas beaucoup. C'était effectivement, je crois, la théologie des réformateurs en particulier. Mais ça ne me plaît pas beaucoup, sauf que cela peut avoir une vertu. C'est de faire confiance en Dieu. Et de dire, écoutez, je ne sais pas très bien comment Dieu va s'y prendre, mais de toute façon, il y a de la justice en Dieu. Donc Dieu ne permettra pas que vous soyez, pour l'éternité, en butte à cette injustice. Et il y a donc une sorte d'acte de foi, en quelque sorte, à se dire que Dieu fera toutes choses bien et comme il faut. Et même s'il y a une injustice incurable d'un point de vue matériel dans ce monde, Dieu trouvera le moyen de me faire réparation. Je ne sais pas comment, mais ça se fera. Et donc il y a une sorte de façon de faire confiance en Dieu, comme dans ce passage de Romains 12, où Paul dit « Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez faire la colère de Dieu ». Parce qu'à vous venger vous-même, il ne viendrait que du mal. Ne sois pas vainqueur du mal par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Et donc, on fait confiance en Dieu. Dieu se débrouillera. Et dès le moment qu'on fait confiance en Dieu et que l'on pense qu'il y aura réparation, cette injustice que nous avions subie devient beaucoup plus légère à porter. parce qu'on abandonne cette espèce de désir de récrimination ou de vengeance qui nous brûle le cœur à l'intérieur. Donc ça a une grande vertu, même si théologiquement ça ne me plaît pas beaucoup, ça a une grande vertu, vous pouvez donc vous en contenter si jamais votre tournure d'esprit vous y permet. Autre solution de s'en sortir par rapport au mal que nous subissons, c'est de dire « le monde est injuste, et c'est vrai, mais ce n'est pas si grave que cela, en quelque sorte, justement parce que Dieu n'est pas du monde. » Et le monde est injuste, mais Dieu n'est pas du monde, et Dieu, lui, est juste. Et je crois que Dieu est juste, parce que Dieu donne sa grâce à chacun, et Dieu offre son amour à tous, et que personne n'en est privé. Donc Dieu lui-même est juste, même si le cours des événements ne l'est pas. Alors le monde est injuste est un fait, mais la foi n'est-elle pas justement d'apprendre à se détacher du monde ? Et finalement, celui qui souffre d'injustice terrestre et matérielle, c'est que d'une certaine manière, il est prisonnier de son égoïsme et de ses attachements matériels. Si par exemple je souffre parce que quelqu'un a fait un acte de malveillance à l'égard de ma voiture que je garde dans la rue, c'est que j'ai eu le tort d'être trop attaché à un véhicule qui n'a pas une grande valeur éternelle, il faut le reconnaître. Par conséquent, en Dieu il y a justice. La foi, c'est de se dégager du monde, de se désengager du monde, de se détacher du monde pour trouver ailleurs son accomplissement. Et ce n'est pas Dieu qui est injuste, c'est le monde. Mais il y a heureusement bien plus important que le monde. « N'aie pas peur, dit le Christ, car j'ai vaincu le monde. » Donc le monde est au pied du Seigneur. Et si vous voulez de la justice, vous n'avez qu'à mettre votre vie en Dieu, parce que en Dieu, tout est justice. Bon, c'est une réponse théologienne qui a certains mérites, mais qui néanmoins ne gère pas la question des compensations des injustices de ce monde. Alors, de quelle manière Dieu compense, s'il le fait, les injustices de ce monde ? Je crois qu'il peut le faire de deux manières. D'abord, d'une manière spirituelle, et ça je l'ai déjà un petit peu évoqué au début tout à l'heure à propos des béatitudes, en disant que Dieu ne nous restitue pas des biens matériels, mais il nous restitue et il nous paye en biens spirituels. C'est normal, Dieu est spirituel et il nous dédommage avec sa monnaie à lui, qui est une monnaie spirituelle. Et donc il y a bien une rétribution, c'est-à-dire celui qui fait le mal et qui n'est pas pris par la loi humaine, ça arrive évidemment, eh bien, Dieu ne le punit pas d'un point de vue matériel, il n'y a pas de justice immanente dans ce monde, mais néanmoins, je reste persuadé que le juste, finalement, s'accumule dans sa vie une sorte de trésor extraordinaire de paix, de bonheur, de confiance et d'espérance, et que celui qui fomente le mal, même s'il y gagne un avantage matériel, eh bien, dans le fond, n'est pas très heureux. Et que par conséquent, il y a quand même une certaine justice. C'est que je ne crois pas que le méchant puisse trouver la béatitude, justement. Par contre, celui qui met sa confiance en l'Éternel peut trouver un bonheur extraordinaire. Et ça, c'est offert à tous. Il suffit d'aller y puiser. Dieu est source de 1000 biens et Dieu ne donne pas peut-être de chance matérielle, il ne donne pas de récompense matérielle, mais il peut donner une récompense extraordinaire et formidable en bonheur et en paix intérieure. Et puis d'autre part, il peut même y avoir là une conséquence matérielle de ce don de Dieu dans son esprit et dans son espérance, c'est que Dieu est aussi un Dieu de ressources, qu'il est une source d'espérance et que la foi que le juste met en Dieu peut lui permettre de trouver la force de se relever et de se remettre debout, c'est-à-dire de ne pas avoir été abattu par l'injustice à laquelle, de laquelle il a été le victime. C'est-à-dire qu'avec la force de Dieu, l'humain peut toujours se relever, il peut repartir et il peut surmonter toutes les épreuves. Ça, on le voit, j'aime bien toujours les cas aux limites, et on le voit chez certaines personnes qui ont subi des difficultés épouvantables dans des camps de concentration, qui perdent leurs femmes, leurs enfants, leur famille, la santé, et qui arrivent à en sortir, et avec une sorte de force extraordinaire intérieure, d'espérance, de courage, arrivent à se remettre en vie, à refonder une famille, à se remettre en marche, et toujours, quelle que soit l'injustice dont ils peuvent être l'objet, ils arrivent à repartir et à retrouver ce dynamisme intérieur qui leur permet de dépasser cette injustice et de faire en sorte que cette injustice n'ait finalement pas touché son but. Alors ça, c'est peut-être ce que je crois, c'est que c'est un Dieu de ressources et que Dieu finalement ne nous donne pas tout cuit la rétribution ou la réparation de l'injustice que nous avons subie, mais il nous la donne en kit, c'est-à-dire en pièces détachées. Il nous donne, par son esprit et par sa force intérieure, le moyen de reconstruire par nous-mêmes ce qui nous a été pris. Et par conséquent, Dieu n'est pas indifférent à la situation de celui qui a subi une injustice, et lui donne le moyen de repartir. Il ne faut donc jamais désespérer, parce que le mal qui nous est fait peut toujours être surmonté, et Dieu ne permet pas que la victime soit enfermée dans le mal qui lui est imposé. C'est d'ailleurs le sens de la demande du Notre Père quand on dit « Ne nous laisse pas, enfin, ce qui est malheureusement traduit, ne nous soumet pas à la tentation », littéralement dans le texte, c'est « Ne nous laisse pas être enfermés dans l'épreuve ». Eh bien, c'est effectivement ce que nous demandons et ce que Dieu peut nous faire. Il nous donne le moyen de construire avec son aide la réparation que nous méritons justement. Et peut-être d'ailleurs, y a-t-il là une piste justement sur la manière avec laquelle Dieu peut faire réparation. C'est que il reste toujours évidemment des situations injustes, et les victimes n'ont pas toujours le moyen par elles-mêmes de parvenir à les dépasser. Et alors, que fait Dieu dans ce cas-là? Eh bien, je crois que Dieu n'agit pas directement dans le monde. Ça, c'est un peu une foi générale. Je crois que Dieu n'agit pas directement dans le monde, ou alors, si, il agit, mais d'une façon lente et progressive. Il lui faut 10 milliards d'années pour faire le monde dans lequel nous vivons. Et donc, Dieu agit, mais très lentement. Et par conséquent, Dieu ne peut pas, d'un coup, bouleverser le cours des choses pour rétablir les événements. Mais que je suis convaincu que le principal moyen d'action de Dieu dans ce monde aujourd'hui, eh bien, il passe par nous, c'est-à-dire il passe par ses fidèles. Nous sommes, nous, les croyants, en quelque sorte, ou les fidèles, ceux qui croient dans quelque chose. Nous sommes l'armée de Dieu, nous sommes ses phalanges, en quelque sorte. Ou pour parler plus bibliquement, nous sommes le corps du Christ, le corps de Dieu. Nous sommes ses oreilles pour entendre le cri de l'opprimé. Nous sommes ses mains pour prendre par la main celui qui s'enfonce. Nous sommes ses bras pour prendre dans ses bras celui qui désespère. Et nous sommes ses épaules pour porter et soulever et transporter celui qui était perdu dans la fange. Ça, c'est une idée qui a été défendue en particulier par des grands penseurs comme Spinoza, qui dit que les mains de Dieu sont nos propres mains, et que Dieu n'agit pas dans des situations extérieures pour rétablir les choses de l'extérieur, mais il peut agir par notre intermédiaire. Alors, ça donne un rôle extraordinairement important à l'homme. C'est qu'effectivement, Dieu n'est pas, Dieu fait tout ce qu'il peut pour rétablir la justice, et il nous demande à nous, en quelque sorte, de travailler à cela. Et donc, la justice en général, et les hommes de justice, ont un rôle quasi divin. C'est d'être pratiquement les bras de la justice divine, non pas pour juger les êtres, parce que Dieu seul peut juger les êtres, mais justement pour défendre le plus faible et pour rétablir des situations injustes. Alors je ne crois pas que Dieu envoie des tremblements de terre ici ou là, et je crois que Dieu n'est pas dans les tremblements de terre, et que Dieu n'a rien à voir avec tout cela, mais que Dieu, par contre, peut envoyer des gens de bonne volonté pour aller aider les victimes des tremblements de terre. Et qu'il y a là quelque chose qui est réel et une action concrète. La question, c'est donc pas de savoir ce que fait Dieu dans les situations d'injustice, mais c'est de savoir qu'est-ce que je fais, moi, là-dedans. Alors, on dit parfois qu'il n'y a pas de justice, mais si, justement, il y a bien une justice. La justice de Dieu se réalise dans le fait que des gens s'engagent pour la justice, Dieu agit par nous et nous demande de nous engager dans la justice, et la justice de Dieu est quelque chose dont nous sommes chacun partie prenante, chacun en est responsable, et chacun est ouvrier avec Dieu pour construire un monde plus juste. Alors, me direz-vous, dernier point, qu'en est-il de la mort du Christ là-dedans ? Parce que ça, c'était le grand thème du Moyen-Âge, c'était que la mort de Jésus avait quelque chose à faire avec la justice, justement, et le prix que le Christ paye au péché. Eh bien, je crois que, justement, la mort du Christ nous apprend beaucoup et permet de conforter ce que nous avons trouvé là, parce qu'elle nous est montrée comme un exemple fondamental d'un certain nombre de choses. D'abord, la mort du Christ est présentée comme, je dirais, l'exemple type de l'injustice la plus profonde. En effet, Dieu, d'abord, ne fera rien pour empêcher concrètement cette injustice, mais l'Évangile nous montre comment il va aider à rétablir le droit dans des cas extrêmes. Je vous ai dit que Dieu était une puissance qui peut aider à repartir, à surmonter, à ne pas se laisser détruire par l'injustice, mais il y a dans la mort du Christ un cas encore que je n'ai pas évoqué, c'est que parfois la personne même est détruite physiquement par l'injustice, elle est brisée et elle n'a plus le moyen de repartir. Alors que fait Dieu dans ce cas-là ? C'est l'exemple du Christ. Le Christ à aucun moment n'a douté. Il a, c'est vrai, tout surmonté avec courage et même avec amour, sans se complaire dans le rôle de la victime. Et il a, peut-être encore plus important, en quelque sorte, offert sa souffrance aux hommes. Et c'est ce verset de Jean que j'aime beaucoup quand Jésus dit « Ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne ». C'est-à-dire qu'il a réussi à donner lui-même un sens à ce qui lui était imposé. Il y a eu une sorte de conversion, en quelque sorte, et cet événement qui lui a été imposé, c'est lui qui l'a accepté et qui a réussi à le transfigurer en lui donnant un autre sens. Cela veut dire qu'avec l'aide de Dieu, tout le mal qui nous est fait peut être transformé en bien. Alors peut-être est-ce là d'ailleurs le message des Béatitudes. Quand Jésus dit « Heureux ceux qui sont persécutés, heureux ceux qui sont pauvres et heureux ceux qui sont affamés », ce « heureux », et je l'ai déjà commenté souvent, ne veut pas dire qu'il faut se complaire dans le mal, mais ce « heureux » veut dire qu'ils sont debout et en marche. C'est-à-dire que vous qui subissez des injustices, eh bien que cela vous mette debout et en marche pour aller quelque part, et que cette épreuve peut justement vous conduire dans des endroits extraordinaires que vous pouvez créer avec l'aide de Dieu. L'épreuve ou l'injustice, c'est quelque chose qui nous blesse, mais qui, d'une certaine manière, est d'autant plus insupportable qu'elle n'est pas dans nos projets. Et il faut être capable de comprendre que tous les changements de direction que le monde nous impose, avec l'aide de Dieu, peut devenir une bonne direction qui nous amène dans des domaines absolument extraordinaires et formidables. Alors, je ne crois pas trop à la rétribution dans l'autre monde, je vous l'ai dit, et je crois que c'est ici-bas que celui qui pleure peut apprendre à rire. C'est ici-bas que l'affamé peut être rassasié, peut-être d'une manière inattendue, d'une autre manière, et la difficulté, elle est là, c'est de savoir accueillir la réalité nouvelle qu'avec Dieu, l'on va pouvoir faire du mal qui nous est, que l'on nous fait subir, et pour cela, il faut se rendre disponible, parce que les plans de Dieu ne sont pas les nôtres, et que Dieu nous donnera d'une autre manière ce dont nous avons été privés. Alors, par exemple, prendre un exemple sans doute trop simple, mais une personne qui a l'injustice de ne pas pouvoir avoir des enfants dans la chair et qui, avec l'aide de Dieu, au lieu de se cristalliser là-dessus et de se buter contre cette espèce d'injustice, arrivera à trouver un autre mode de fécondité bien plus extraordinaire. Et on a bien sûr de nombreux exemples de cette situation. Mais, vous disais-je, que se passe-t-il si la personne meurt de cette injustice ? Alors là encore, la mort du Christ est intéressante. Si la personne meurt, elle n'a plus le moyen de se reconstruire. Mais la mort du Christ est intéressante parce qu'elle nous montre que ce qui reste dans l'autre monde de notre vie, après notre mort, ce n'est pas rien, et que Dieu ne laisse pas périr dans le néant celui qui aura même été tué par injustice. Parce que ce que Dieu donne, c'est justement ce qui est immortel. Et les compensations qu'il nous donne, dès ici-bas, ne sont pas d'ordre matériel, mais d'un autre ordre, nous l'avons vu. Et que ce qui est d'un autre ordre est justement éternel et transcendant. Comme le vin des noces de Cana, quand le vin physique vient à manquer, Jésus donne un vin nouveau qui est une joie encore plus grande et qui, elle, n'a pas de fin. Ce que Dieu donne, ce sont des trésors que la rouille ne détruise pas et que les voleurs ne peuvent percer ni dérober. Et nous voyons dans le Christ que Dieu l'a comblé, que Dieu l'a souverainement élevé, et que cette valeur infinie qu'il a réussi à obtenir par sa vie et par sa mort demeure même après sa mort. C'est-à-dire qu'il a subi une grande injustice, mais finalement, même 2000 ans après, il reste quelque chose d'extraordinaire, une valeur infinie à cette existence. C'est de cette manière que je crois à la vie éternelle, et je ne crois pas à une rétribution dans une sorte de paradis où il y aurait des diables qui piqueraient les fesses de ceux qui ont mal fait et des anges qui serviraient le thé à ceux qui ont bien agi. Mais dans le fond, il reste d'une vie ce qui mérite de rester. Et du mal, il ne reste rien. Et donc les pécheurs ne sont peut-être pas punis, mais ils sont punis par la destruction et par le néant. Par contre, tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui aura été de justice, de dévouement, de tendresse, d'amour et d'acceptation, de patience, ça c'est un trésor infini qui demeure éternellement. C'est ça la résurrection, valeur fondamentale qui demeure pour Jésus, et Jésus demeure entièrement dans la valeur spirituelle. Puisque privé de tout, Jésus n'avait pas de descendance, il n'avait plus d'amis au moment de sa crucifixion, pas de soutien, pas de richesse, ni de réussite professionnelle, puisqu'il essaye de parler et finalement on le tue, et abandonné de tous dans la trahison, le mensonge, l'échec, la souffrance et la mort, l'injustice absolue, eh bien on se rend compte que l'injustice elle-même disparaît et il ne reste que le beau, que le bon et que le positif. Ça montre que la valeur d'un être, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il apporte au monde, et la valeur d'un être n'est pas dans ce qu'il subit, mais la valeur d'un être, elle est dans ce qu'il donne au monde, et que cette valeur n'est même pas limitée à sa vie terrestre, mais qu'elle demeure et qu'elle reste comme une trace indélébile, une trace éternelle dans ce monde, et même après sa mort. Et aujourd'hui, Jésus continue à apporter infiniment au monde plus que ceux qui lui ont fait subir cette injustice qui sont oubliés. Tout cela, tout le monde peut le faire à son niveau. Et notre vie ne se limite pas à nos petites réussites matérielles, mais à sa consistance fondamentale dans tout le reste qui est offert par Dieu. Ainsi donc, on nous dit que Dieu est amour, mais je crois qu'il faut aussi comprendre qu'il est justice. Ça semble difficile de concilier les deux, mais pourtant, je suis persuadé que les deux sont absolument indissociables et indispensables, parce que les deux s'appuient l'un sur l'autre, parce qu'un amour sans justice ne serait pas un véritable amour, ce ne serait que de la mollesse. Un amour sans justice ne serait pas un amour créateur. Donc Dieu aime et il pardonne, mais je veux croire aussi qu'il y a en lui une véritable justice qui me rétablit dans mon droit, si je suis lésé, et qui pourtant, je dirais, arrive à punir tout en pardonnant. Ça peut sembler paradoxal, mais je crois qu'il y a fondamentalement une nécessaire justice en Dieu. Et de même que pour ce qui est de l'être humain, une justice sans amour ne serait qu'une machine infernale. L'amour, ce n'est pas nécessairement d'aimer ou de trouver sympathique les gens, mais c'est de prendre en considération ce qu'il est. Et donc amour et justice, nous dit le psaume, s'embrassent, justice et paix se rencontrent. C'est là le grand paradoxe, mais c'est la chose absolument fondamentale, hors de laquelle il n'y a plus ni amour ni justice. Pour nous, nous croyons dans l'amour de Dieu, et nous croyons aussi que c'est un Dieu juste, c'est-à-dire c'est un Dieu qui permet que celui qui est bafoué soit rétabli dans son droit, en quelque sorte, et que Dieu puisse rétablir toutes ces situations injustes de l'humanité et qui nous permet de profiter de son amour dans la plus grande des confiances. Amen.